BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Absentéisme, coup de mou, irritation, la cinquième vague dans les entreprises. C'est un peu dur en cette rentrée 2022. On va tenter de vous remonter le moral. Notre premier invité, Pierrick Brenier, président de Coesio. Il se définit lui-même comme le président d'Ambiance Générale. Il va nous expliquer tout ça. Et puis on sera aussi avec Eric Albert, cofondateur de YouSide. Pour lui, il n'y a que des opportunités dans la crise. Il va nous expliquer lesquelles. Et puis on va parler des stagiaires et des alternants. C'est dur de s'intégrer dans une entreprise. Laurent Labbé, fondateur de Choose My Company, va nous donner ses conseils. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Pierrick Brenier. Bonjour, président de Coesio. Coesio, c'est une PME de services numériques, un groupe que vous avez lancé il y a 30 ans. Vous aviez quelques salariés, quelques clients, désormais 2700 collaborateurs, 180 agences. C'est une entreprise avec beaucoup d'entreprises dedans. Et vous, ce que vous aimez à dire, c'est que vous occupez de l'ambiance au travail. Vous devez souffrir un petit peu en ce moment.
Bien, bonjour à tous. Eh bien, l'ambiance, c'est ce qu'il y a de plus important, à mon sens, dans une entreprise. C'est pour ça que PDG, pour moi, c'est pas président directeur général, mais président d'ambiance générale. Parce qu'il me semble que l'ambiance, c'est ce qui régit tout. En fait, la relation interpersonnelle, c'est ce qui fait tout dans une entreprise. Il se trouve que mon métier, c'est l'informatique. On vend de l'informatique, du télécom, des solutions logicielles. Eh bien, notre actif, ce sont les collaborateurs. On a que ça, on n'a pas de brevet, on n'a pas d'usine, quoi. Donc, l'ambiance et la motivation de tous, c'est... C'est ça la vraie motivation.
Enfin, comment vous mettez l'ambiance au quotidien ?
Eh bien, l'ambiance au quotidien, c'est la culture managériale. C'est comment écouter les autres, comment faire en sorte de s'assurer que ça aille bien, comment faire que les gens soient contents chaque jour. Donc, c'est du quotidien. Vous savez, de dire bonjour aux gens, de leur dire comment ça va, mais un vrai comment ça va, et de leur dire merci quand ils ont fait quelque chose de bien.
Et ça, c'est votre boulot de PDG. Vous considérez que c'est ça que vous devez faire, vous, au quotidien?
Moi, je suis le DRH de la boîte, finalement, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est l'humain dans la boîte. Donc, en fait
c'est-à-dire que vous n'en avez pas de DRH?
J'en ai plein, parce qu'en fait, notre organisation...
J'en ai plein, mais c'est moi le DRH.
Non, notre organisation, c'est une organisation décentralisée, avec nombre de PME. En tout, on est 3000 aujourd'hui.
Vous en avez racheté beaucoup.
J'en ai racheté beaucoup. On a fait 180 acquisitions, pardon. Et l'idée, c'est quoi? C'est que l'essentiel de nos collaborateurs nous ont pas choisis. On les a pas choisis. Et avec ça, il faut qu'ils nous aiment, il faut qu'on les aime. Et donc, tout l'enjeu, c'est de les intégrer, de faire en sorte qu'ils soient contents de bosser avec nous tous les jours.
Alors, vous faisiez des énormes événements d'entreprise, des grosses fêtes. Vous avez même eu les Black Eyed Peas, comme quoi vous ne reculez devant rien, même si ça plaît à chacun. On pourra discuter des Black Eyed Peas, mais c'est un autre sujet. Là, vous souffrez du coup de ne pas pouvoir faire d'événements. Ça nuit à vous, à votre vision, à votre stratégie en matière de ressources humaines?
Ben oui, bien sûr. Alors quand même, le dernier gros événement, c'est justement le changement de notre marque. L'entreprise s'appelait Cepro et on avait 27 autres marques. Et désormais, depuis le 18 septembre, on s'appelle Coesio. Et à cette occasion, on a fait un immense événement. Parce que changer de marque était important. Et une entreprise normale aurait invité ses 1000 plus gros clients. Et nous avons invité nos 2500 collaborateurs. Nous étions 2500 à l'époque. C'était le 18 septembre. Et on a fait un événement incroyable à Cannes. Et il y avait justement les Black Eyed Peas, un grand feu d'artifice. Et on a fait un événement pour lancer ce plan stratégique et pour infuser notre culture d'entreprise à chacun. Et bien sûr, c'est mémorable.
C'est-à-dire que vous créez du souvenir dans la tête de vos collaborateurs. Vous créez un peu comme un cadeau. Ils se souviennent de ça et ça les marque.
Alors non seulement ça les marque, et puis ça imprime un esprit d'appartenance, une fierté d'appartenance qui est fondamentale. Et c'est d'autant plus fort aujourd'hui qu'avec le télétravail, on perd un peu ce lien. Et donc de faire des événements quand on y arrive, eh bien c'est magique. Et cet événement était magique parce qu'on a rassemblé sous la même bannière l'ensemble des entités du groupe, l'ensemble des collaborateurs. Et là, c'était donc génial. Et franchement, beaucoup de mes copains entrepreneurs me disent « Mais moi, j'ai pas les moyens de faire des trucs comme ça. »
Bah oui.
Mais je leur dis « Mais le ROI, il est incroyable. » Alors pourquoi il est incroyable? Un événement comme ça, une soirée comme ça, assez coûteuse, 2 millions.
2 millions vous avez mis dans cette soirée.
2000 collaborateurs. 1000 euros par collaborateur. Ouais. On fait ça tous les 4-5 ans.
Mais peut-être que certains auraient préféré une prime.
Oui, mais justement, si vous faites 1000 euros par collaborateur, vous divisez ça par 4, parce qu'on fait ça tous les 4 ans, ça fait 250 euros, brut chargé, 12 euros par mois. Eh bien, ce qu'on en a tiré en fierté d'appartenance, en non turnover, en engagement, en fierté, en image aussi pour les tiers,
bah c'était énorme. Ça vaut le coup, plus que le coup.
C'est pas que ça vaut le coup, le
retour sur investissement,
c'est que je connais pas pour les collaborateurs de retour d'investissement aussi bon.
C'est quoi la prochaine fête alors?
Eh bien, on va le 11 juin tous à Marrakech.
Ah oui.
Oui, en fait, l'idée c'est qu'on devait aller à Marrakech, on n'a pas pu y aller, donc il fallait absolument qu'on fasse l'événement. On a fait Cannes. Du coup, comme on avait tellement d'acomptes à Marrakech, bon, on va tous à Marrakech le mois prochain.
Les 2700 collaborateurs.
Exactement.
Mais vous avez loué quoi?
Eh bien, on a un pont aérien quasiment pour aller à Marrakech. Oui. Et là-bas, une grande fête sera organisée sur le thème d'un Burning Man en plein milieu du désert.
D'accord. Donc, il n'y a pas que les fêtes quand même chez vous, chez Coesio. Il y a aussi une grosse politique d'actionnariat salarié. Ça, c'est important. Vous avez même reçu un prix sur l'actionnariat salarié. 65%, je crois, de vos collaborateurs ont des actions. C'est important, ça permet de garder les talents. Tout le monde veut des actions ou il faut un peu forcer la main?
Alors déjà, quand on est entrepreneur, propriétaire de son entreprise, donner son capital, c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc si on le fait, c'est qu'on a une conviction personnelle forte. Et quand je lance ça il y a 6 ans, je me dis, bon, est-ce que j'en tirerai un réel bénéfice? Concrètement, on voit des gens plus attachés, plus motivés, à éteindre la lumière, à partager l'entreprise. Et avant, on avait une des valeurs qui disait, comportez-vous comme si vous étiez copropriétaire de l'entreprise. Ben maintenant, c'est plus simple, vous êtes copropriétaire. Donc c'est notre entreprise, c'est pas mon entreprise. Et donc ça change beaucoup de choses, et puis ça permet aux gens de se projeter.
Il y a plein de patrons de boîtes qui sont extrêmement réticents à ouvrir leur capital, à le partager à leurs salariés. Vous dites que ça vaut le coup.
Ben, je sais,
ça change l'état d'esprit des salariés.
La plupart de mes copains entrepreneurs, j'en connais aucun, qui a pris le chemin que j'ai pris. En tout cas, moi, je ne regrette pas. Je suis content d'avoir fait ça. Et je suis content de partager aussi.
Oui, je ne comprends pas comment on peut refuser d'ouvrir son capital pour faire participer ses salariés et monter l'engagement. Vous leur dites quoi, vos copains entrepreneurs?
Je leur dis, mesure le bénéfice que tu en auras mesure ça concrètement. Et donc, y a 200 ETI en France seulement qui ont mis en place un FCPE.
C'est rien.
Et moi, je milite pour qu'il y en ait de plus en plus. Et je trouve ça très vertueux.
Gros événement, actionnariat salarié, et au quotidien, du coup, avec des salariés qui, chez vous, sont quasiment 100% télétravaillables, qu'est-ce qu'on fait pour faire de l'unité, pour faire corps?
Alors, ils ne sont pas 100% ont des métiers télétravaillables. En fait, on est 3000. On va dire qu'il y en a une grosse moitié qui peut faire du télétravail, et les autres sont chez les clients, dans les entrepôts, à aller dépanner les clients et aussi à faire des colis, par exemple. Eh bien, ceux qui font du télétravail viennent de temps en temps quand même au bureau, ces moments-là sont importants. Et puis, on peut aussi faire des choses fun en visioconférence. On peut faire des relations, des teams, des apéritifs en visio. Bon, bien sûr, c'est beaucoup, beaucoup moins sympa que de se retrouver tous ensemble.
Mais vous avez fait des événements internes aussi chez vous. Vous m'avez parlé d'une capsule.
C'est ça. Nous avons dans notre siège à Valence, dans un moment où c'était assez compliqué, je dis, mais purée, il faut qu'on se retrouve. Et en fait, le télétravail réorganise les bureaux. Nous, on est très vigilants à ça, de se dire comment on met un peu plus de flex-office, comment on fait que les gens soient dans des endroits différents, comment on met un peu de dynamique. Et dans notre siège à Valence, on a même construit un endroit qui s'appelle la capsule, une espèce de bar, boîte de nuit, qui permet de faire des événements. On est parti du principe qu'un cosmonaute, quand il descend de l'espace, eh bien, il passe par une capsule avant d'arriver sur Terre. C'est pour ça qu'on l'appelait capsule, avec un K, parce que Coesio a un K, et nous, le K, c'est notre lettre.
Mais quel rapport avec la capsule et le fait de...
Eh bien, parce qu'on sort d'un confinement.
Ah,
on est confinés dans l'espace.
C'est un sas de décompression.
Et nous voilà déconfinés tous ensemble.
Qu'est-ce que vous dites à vos managers, à vos DRH, de votre vision stratégique sur le fait de créer l'humain, de la cohésion? Vous leur dites quoi?
Eh bien, je leur dis, le monde a changé. C'est-à-dire que c'est illusoire de pouvoir dire aux gens, maintenant, vous ne travaillerez plus jamais. Mais comme on travaille, on se distend de l'entreprise, on s'éloigne de l'entreprise, ça paraît une évidence. Et donc ce lien qui est important pour nous dans une entreprise qui est un peu tribale, où on fait beaucoup d'événements, eh bien on se dit, il faut au contraire avoir plus d'éléments forts, plus d'événements forts, et donc de créer dans nos locaux des endroits, des places de village, où on est tous ensemble, on va partager des événements, ça me paraît essentiel de garder le lien.
Mais vous n'êtes pas dans une optique bonheur au travail, absolument. Vous êtes dans une logique, dans votre esprit, de contrainte quand même, de compréhension du travail comme une contrainte.
Bah oui, de toute façon, faut avoir les pieds
tous les jours.
Faut avoir les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, c'est un métier, comme tous les métiers, qui demande de l'exigence. Je pense qu'on peut conjuguer exigence et bienveillance, c'est tout à fait possible, mais il ne faut pas se leurrer. Le plus engagé de mes collaborateurs, si demain il gagne 50 millions à l'euro million, le taux de chance...
Qui revienne le lendemain.
Le lendemain sûrement, parce qu'il est
pour
sympathique. Mais le taux de chance qui reste à long terme chez nous est tout à fait faible. De même, si j'arrête de le payer pendant deux, trois mois, il est possible là aussi qu'il arrête de venir travailler. Donc en fait, moi j'ai les pieds sur terre. Je sais que globalement, le travail est une contrainte. Mais ce passage dans notre entreprise, il faut qu'il se passe le mieux possible. Et en fait, et de serrer la main tous les jours à nos collaborateurs en regardant les yeux et de mesurer vraiment comment il va, ça me paraît essentiel.
Est-ce qu'on peut être heureux chez Coesio sans aimer la fête, en ayant des enfants en bas âge et en se couchant à 7h30 pour les 8h, pour ceux qui sont sympas?
Chez McDo, il dit venez comme vous êtes. L'intérêt, c'est de vous bien le vivre. Notre DRH, dans le siège social de notre entreprise, c'est une fille avec qui je travaille depuis 30 ans maintenant, elle est psychologue diplômée. Et son métier, à elle, c'est de mesurer les douleurs des uns et des autres. Et donc, en fait, le tout, c'est que les gens soient contents de vivre avec nous. C'est pour ça que on a du turnover, des fois plus, des fois moins. Assez peu de turnover subi, mais on n'a pas de difficulté à se séparer d'un collaborateur qui se sent mal chez nous. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit heureux, chez nous ou ailleurs.
Ça veut dire que vous proposez des ruptures conventionnelles facilement, sans aucun problème ?
Facilement, en fait. Une rupture conventionnelle, c'est quand l'un et l'autre veut se séparer. On se dit, voilà, si toi tu veux partir, ça s'appelle la démission. Si moi je te vire. Mais si ensemble, on considère qu'on n'a pas d'avenir en commun, eh bien on peut traiter assez facilement une rupture conventionnelle. En tout cas, on en discute.
Merci beaucoup, Pierrick Brenier, d'être venu nous voir, président de Coesio. On va continuer de parler de cette rentrée chamboulée. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? On en parle tout de suite.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, Better Together.
Coup de mou, absentéisme, irritation, comment lutter contre cette déprime de la rentrée? On est avec Eric Albert, bonjour.
Bonjour.
Psychiatre et fondateur de YouSide. On a des vagues successives de Covid qui nous tombent sur la tête. On a notre morale qui est un petit peu dans les chaussettes. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux salariés et aux managers pour 2022, si c'est possible de leur souhaiter quelque chose?
Ce qui est certain, c'est qu'on sait maintenant qu'on n'aura plus d'années linéaires. On ne se souvenait pas, mais avant, on prévoyait notre année. Tout était le moment du budget, les séminaires, les moments où on travaillait avec les clients plus, etc. Tout ça était prévu et déroulé comme ça. C'est fini. On n'a plus aucune année qui est une année qui sera prévue et qui va se dérouler comme on le pensait. Donc il y a vraiment un état d'esprit qui est d'accepter que on doit être beaucoup plus opportuniste au moment où les choses se passent et arrêter de résister face à quelque chose sur lequel on ne peut rien faire. Et donc avoir toutes ces émotions négatives qui nous envahissent, j'en ai marre, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, ça arrive. Donc la question, qu'est-ce qu'on fait de ça?
Donc ça veut dire vraiment avoir une vision factuelle au jour le jour, prendre les choses comme elles viennent.
Et beaucoup plus adaptatif que de se projeter dans quelque chose qui n'arrivera pas. Donc vous disiez, on ne sait pas combien de vagues on aura encore, on ne sait pas. Bon,
donc ne faisons plus de plans stratégiques avec grande présentation,
on peut toujours faire
le calendrier
plans.
De l'année. Quoi.
On peut faire des plans, mais le calendrier de l'année, il n'arrivera pas. Ça ne se passera pas comme on... Alors que, et ça c'est vraiment, pour l'entreprise, c'est quelque chose qui est très déroutant.
Parce que l'anticipation, c'était une compétence intéressante.
Prévoir, avoir mon tableau Excel qui me dit tout ce qui va se passer. Non, ça ne se passera pas comme c'est dans le tableau Excel.
Et vous disiez prendre des opportunités au moment où elles arrivent.
Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de très important. Dès qu'il va y avoir un moment d'ouverture, il faut se précipiter pour refaire du convivial, pour refaire du séminaire ensemble, pour emmener son équipe à Marrakech. Faut y aller tout de suite, là. Et parce que, faut pas se dire, non, on n'est pas prêt, on va faire ça maintenant.
Donc on regarde le budget, on se dit c'est possible, d'ici 3 semaines,
on y va, temps court, très vite, très rapidement. Parce que ce qu'on voit, hein, c'est que cette distance qui se crée, ça réduit le périmètre de sécurité psychique des acteurs. Pourquoi ? Parce que comment je peux parler de moi à quelqu'un que... je n'ai pas vu depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois. C'est très difficile. Et mon périmètre, ma sécurité psychologique n'est plus là.
Donc comment ça va, n'a même pas de réponse.
C'est une formule de politesse. Ça n'est pas...
On perd la proximité.
Mais on perd ça. Donc on garde une proximité un tout petit peu avec ces équipes très proches. Les équipes entre elles se parlent plus ou très mal. Ça se tend énormément entre équipes. Et chaque individu perd un peu de cette sécurité psychologique qu'il avait, parce que je connais les gens autour de moi, je sais qu'il y a une certaine bienveillance et je peux leur parler de moi. Donc il va falloir qu'on utilise de façon beaucoup plus intense ces moments où on peut se réunir, parce qu'on a absolument besoin de ça.
C'est-à-dire que sur ces moments-là, il faut mettre le paquet, vraiment. En termes financiers, en termes d'investissement émotionnel.
Et en termes de présence des acteurs.
Faire venir tout le monde.
Utiliser le plus possible les...
C'est fini les événements clients, c'est ce que nous disait notre PDG à l'instant. Il faut faire des événements collaborateurs.
Les événements collaborateurs, c'est essentiel, c'est fondamental. On a absolument besoin de ça. Et dans l'attachement à l'entreprise, c'est fondamental. Dans la sécurité que j'ai, dans le lien que je crée. Et puis, à la fin des fins, dans le plaisir. Parce que n'oublions pas que le travail, ça nous donne du plaisir. Et le plaisir, c'est voir des gens. C'est être en contact. J'aurais beaucoup moins de plaisir si on faisait la même chose en Teams. Là, j'ai le plaisir d'être là, de vous voir, de discuter avec vous. On a un petit moment informel, 2 minutes, on discute un peu. Ça change tout.
Ah oui.
Et donc, c'est ça qui fait qu'on a absolument besoin d'utiliser chaque slot et d'être extrêmement réactif et de ne pas se dire « Ah ben, non, c'était prévu en juin. » Ben, si le slot, il est en mars, on va le faire en mars.
Il y a pas, je sais bien que vous n'êtes pas le Père Noël, Éric Elmer, mais qu'est-ce que ça nous a apporté, quand même, cette crise ?
Oh ben, ça nous a apporté 3 choses essentielles. D'abord, on est beaucoup plus attentif à la dimension environnementale. Ça nous a fait prendre conscience collectivement de ça. Et toutes les boîtes, vous voyez, il n'y a plus une boîte qui ne prend pas ça.
Rien à démontrer, c'est maintenant, intégré.
Et tout le monde doit participer à ça. Et là, il y a... Deuxième chose, il y a une exigence de sens beaucoup plus fort. Et sur le plan managérial, si je ne donne pas de sens, c'est le sujet de la grande démission. Tous les gens, si je ne donne pas de sens, moi aussi, si je ne montre pas que ce que je fais est utile, je contribue, c'est intéressant, je m'en vais. Et puis, troisième point, on réinvente complètement le management. Ça, c'est merveilleux.
Alors, on en est où dans cette réinvention du management ?
On n'a jamais eu une période où on réinventait comme ça le management. Y a un sujet essentiel, c'est que comme les gens sont peu là, et que venir, c'est un effort, il faut qu'il se passe quelque chose qui fait que si je n'ai pas été là, j'ai l'impression d'avoir loupé. Si je suis là pour être devant mon ordinateur, c'est raté. Donc le manager, il doit inventer, il devient quelqu'un qui doit inventer le fait que quand les gens sont là, il se passe quelque chose. Ils ont le sentiment qu'ils sont contents d'être là parce que sinon, ils auraient raté quelque chose.
C'est-à-dire qu'on veut des managers animateurs maintenant ?
Bien sûr, l'animation va être essentielle. La dynamique collective, la convivialité, l'informel, le plaisir relationnel, l'élaboration ensemble, me sentir partie d'une intelligence collective. Comment est-ce que je suis convaincu que si j'étais pas là, eh bien cette séance de créativité aurait été un peu différente?
Mais ça veut dire un manager qui a un espèce de plan de développement humain à côté de son plan stratégique.
Ça c'est sûr, il doit avoir un plan de développement humain, il doit être extrêmement justement attentif à chacun, comment chacun se sent intégré dans quelque chose, comment il a créé des liens et il les entretient avec les autres, comment il participe, comment il est différent, comment est-ce que sa différence nous intéresse. Vous voyez, c'est l'intelligence collective, c'est basé sur la différence des acteurs. Donc, comment est-ce qu'ils s'expriment ? Toutes ces questions-là vont être au premier plan.
Avec une part de rapport à l'innovation un peu plus ouverte, parce que toutes les entreprises disent « Nous, on adore l'innovation, c'est super », mais enfin, elles luttent quand même en vrai contre le premier qui a une idée un peu farfelue. C'est-à-dire qu'il va falloir laisser plus de place à celui qui veut innover ?
Encore une fois, je me sens utile, je sens que je fais des choses importantes quand je contribue effectivement à faire bouger les choses. Si je suis juste un pur producteur, les purs producteurs, ils vont rester en télétravail.
Et ils y seront bien.
Ils y seront bien. Finalement. Et ils seront très à distance de l'entreprise. Et puis dès que quelqu'un leur proposera un peu plus d'argent, ils partiront ailleurs. Et ça sera un peu comme des travailleurs indépendants. Ceux qui veulent participer à l'aventure, ben oui, s'ils ne sentent pas qu'ils participent à quelque chose qui bouge,
Ça marche pas. Merci beaucoup Eric Albert, vous avez remis un peu de baume au cœur. Moi ça m'a fait du bien cette conversation et de vous voir en vrai. On va parler des jeunes et de ceux qui doivent s'intégrer aujourd'hui dans l'entreprise, les alternants, et c'est pas simple.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Stagiaires, alternants, comment faciliter leur intégration? On est avec Laurent Labbé, bonjour, fondateur de Choose My Company. Vous avez fait une enquête à l'automne dernier, Happy Trainees 2021, où vous avez remarqué que 83% des stagiaires et des alternants sont satisfaits de leur entreprise. Vous m'auriez posé la question à moi, je vous aurais dit personne n'est content, et finalement le chiffre n'est pas si mauvais.
Non, non, les stagiaires, les alternants sont contents. Ça fait 10 ans qu'on a ce baromètre Happy Trainees. Et on analyse sur 6 thématiques la motivation et la satisfaction des stagiaires et des alternants. Effectivement, cette année, c'est reparti. Il y a eu un petit trou d'air de 2 ans, hein, quand même, avec le Covid, avec baisse de la satisfaction. Mais là, on est à des niveaux de satisfaction qui sont très élevés.
Les vacances de Noël sont passées. On est relativement sur une rentrée de la déprime. Vous pensez que là, si vous faites le thermomètre début janvier, c'est la même chose, ou le fait de retourner en télétravail, d'aller moins dans l'entreprise, c'est dur?
Alors, l'enquête, elle dure toute l'année, et en fait, on interroge les stagiaires à la fin de leur mission, ou de leur alternants à la fin de leur mission. Donc, dire exactement janvier, je sais pas. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir qu'ils sont bien accueillis par leur tuteur. On leur confie des responsabilités. Ils sont mis dans des modes de travail hybrides qui leur conviennent, qui présentent des difficultés, il faut faire attention. Et puis, ils rejoignent des entreprises qui leur proposent aussi de plus en plus de projets impact sociaux ou environnementaux, et ça, c'est des gros facteurs de motivation.
Vous disiez justement que c'est mieux qu'il y a 2 ans, ça veut dire que l'entreprise a changé vis-à-vis de ces nouveaux entrants qui sont là pour des missions courtes?
Alors, ils sont là pour des missions entre 3 mois et 2 ans, hein, pour les stagiaires les plus courts et les alternants les plus longs. Donc, il y a vraiment une variété qui est très large. Les pratiques se sont améliorées. C'est-à-dire, la relation avec le tuteur s'est renforcée, ou le maître de stage. La capacité du tuteur à fixer des objectifs, à accueillir l'étudiant, à lui donner du feedback, c'est nettement amélioré. Il y a eu aussi de fortes améliorations sur l'attitude des managers. Il y a une très très forte pression en termes d'exemplarité vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des personnes en situation de minorité. Donc il y a un vrai sujet là.
C'est-à-dire parce qu'on s'est professionnalisé tous, chacun, quand on a un stagiaire, oui, un alternant, on est beaucoup plus attentif.
Ouais, l'enjeu du programme de stage d'alternance est très élevé pour les entreprises. Il y en a deux. Un, c'est montrer que vis-à-vis de la jeunesse, on tient son rôle social, et ça s'est renforcé notamment avec la crise sanitaire et l'importance de la RSE dans la performance extra-financière de l'entreprise. Et deuxième enjeu, c'est dans un contexte de guerre des talents qui est reparti depuis 6 mois, on est en pénurie d'emplois, c'est comment on attire et comment on recrute. Donc oui, les DRH, les patrons mettent la pression et forment les tuteurs pour bien s'occuper, bien intégrer, pour les deux raisons que je viens d'expliquer.
Est-ce que l'alternant, c'est la pépite que tout le monde veut, un bon alternant qui va rentrer dans l'entreprise? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui bien mieux valorisés qu'avant?
C'est l'alternant et le stagiaire. L'alternant, c'est un tout petit peu encore en retrait. Il y a 2 fois moins d'alternants en France que de stagiaires. C'est quand même des populations énormes. C'est 1,5 million de stagiaires à peu près, 700 000 d'alternants. Mais un très bon stagiaire ou un bon alternant, oui, c'est une pépite, c'est un pré-recrutement, c'est un vecteur de réputation très fort. Et c'est la preuve que l'entreprise, encore une fois, joue son rôle social vis-à-vis de la jeunesse.
Avec une population d'alternants qui est relativement disparate, enfin qui change. On a des alternants ingénieurs, on a plein d'une typologie différente. Vous me disiez en préparant, ils souffrent, eux, ces alternants?
Alors, ils souffrent, non, ils souffrent
petite
pas,
souffrance,
si j'exagère un
petite
peu.
Petite déprime.
Voilà, ils sont un peu moins satisfaits que les... Oui, c'est vrai, ils râlent un peu plus que les stagiaires. Ils sont un peu moins satisfaits pour 2 raisons. Un, ils râlent de ne pas être considérés alors qu'ils ont un contrat de travail exactement de la même façon que les salariés. Ça, c'est un peu difficile. Et ensuite, le rythme de l'alternance, est un peu difficile. C'est plus difficile de confier des missions à un alternant qu'à un stagiaire. Un stagiaire, il va être là 3 à 6 mois pour une durée qui est compacte, c'est limité. On peut lui faire confiance, on peut lui donner des responsabilités. L'alternant, il est là, il n'est pas là. En plus, les cycles peuvent changer, etc.
Ah oui,
j'avais oublié que tu allais à l'école. Ah mince, t'es pas là le mois prochain. Rien que pour l'alternance, c'est pénible à entendre et pour le tuteur à dire. Donc, Oui, le rythme est un peu compliqué.
C'est quoi pour vous l'enjeu pour tous ces jeunes qui arrivent dans des entreprises qui sont légèrement désorganisées, avec du travail hybride? C'est quoi le conseil que vous donnez à ceux qui les accueillent?
C'est d'abord pour les entreprises de bien les intégrer, de bien leur expliquer la culture de l'entreprise. Ensuite, c'est l'autonomie et la responsabilité. C'est comment dans un contexte hybride, on peut laisser l'étudiant autonome tout en ayant des responsabilités. Et ensuite, c'est montrer... dans le projet de l'entreprise et dans le projet du stage, un impact social, environnemental, des attitudes qui sont exemplaires, et ça, c'est un système de valeurs que les entreprises doivent montrer.
Mais ça veut dire investir du temps. Il faut pas hésiter à investir du temps.
Il faut investir du temps, et il faut de la formation pour les tuteurs, et il faut leur faire confiance, parce que souvent les tuteurs aussi sont jeunes, ça peut être une première expérience managériale pour eux, donc il faut leur faire confiance et les aider à accueillir ces jeunes.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que les jeunes ne veulent rien faire?
Ben que c'est complètement faux. Ils veulent faire plein de trucs. Ils veulent découvrir l'entreprise. Ils veulent participer à la réussite d'un projet. Ils veulent s'intégrer. Ils étaient malheureux comme les pierres et beaucoup plus que les autres d'être complètement en télétravail parce que y a moins de cohésion pour eux et ils ont envie de contribuer. Ils ont envie d'avoir de l'impact. Donc ils ont pas du tout envie de rien faire. Donc c'est faux.
Merci beaucoup Laurent Labbé. Aimez votre jeune quand il vient dans votre entreprise. Happy Boulot, le mag, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.